Bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout d'abord, mes remerciements au Seigneur qui m'a fait grâce d'être devant vous pour partager sa parole, un exercice qui n'est pas facile. Lorsqu'on pense à celui pour qui on va parler, un grand Dieu, un Dieu souverain, qui sommes-nous tous les tout petits pour parler pour le compte d'un grand Dieu, mais nous comptons sur sa miséricorde. Je tenais également à lui remercier. Il y a 2 semaines, vous avez prié pour moi pour que je puisse le servir parmi vous. Lui remercier également pour la communion fraternelle qui a eu ce jour, il y a 2 semaines. Je pense que Dieu nous a bénis ensemble dans les encouragements de chacun de vous et la présence de chacun de vous. Et pour cela, je dis encore merci, Seigneur. Tout n'est que sa bénédiction. Je vous invite à la prière. Dieu de gloire, nous, je serai jamais à la hauteur parce que tu es un grand Dieu, parce que tu es très haut, tu es le Tout-Puissant, tu es le Créateur et que moi, je suis un petit enfant devant toi. Qui suis-je pour parler pour ton compte, Seigneur? Je voudrais bien m'abandonner sous ta puissance, que le Saint-Esprit de Dieu puisse me saisir, effacer mes manquements et fermer mes pensées personnelles, mais que seulement l'Esprit du Seigneur guide mes propos. Parce que toi, sœur Seigneur, tu sais ce que veulent entendre tes enfants. Tu sais ce qui les édifie. Tu sais ce que tu veux qu'ils entendent. Toi seul, qu'ils puissent écouter que ta parole. Oui, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Bénis-nous à travers ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous regardez l'actualité qui passe ces derniers temps, vous savez que le monde est à la recherche de ce qui est durable, la durabilité. Au moment où même nous sommes réunis, il y a la COP 28, donc la conférence des parties. C'est une réunion des nations, les Nations Unies, à la recherche des consensus sur les actions à entreprendre pour lutter contre les changements climatiques. Le monde est à la poursuite de ce qui pouvait impacter durablement le climat et le bien-être de notre planète. La durabilité. Lorsque j'ai pris le maillon, c'est le magazine de l'IBB de l'Institut biblique, j'ai trouvé ce thème également dans le magazine de l'IBB, l'impact durable. Un témoignage d'un pasteur qui parle d'un acquis qu'il a reçu de la formation ici à l'IBB, que cet acquis l'aide et l'accompagne dans son ministère au quotidien. Alors, je me suis posé la question. Comment nous, moi et toi, comment pouvons-nous acquérir, comment pouvons-nous chauffer, se construire une vie chrétienne impactée durablement, une vie chrétienne qui dure, une vie chrétienne où le Seigneur est renouvelé chaque matin pour le bien-être de nos âmes. J'ai pris le texte dans l'évangile de Jean au chapitre 5, un texte que vous connaissez déjà, vous l'avez entendu maintes fois si vous fréquentez l'église dans l'évangile de Jean. Il y a un texte au chapitre 5, nous lirons les 17 premiers versets. Je lis la parole de Dieu, la guérison à la piscine de Bethesda. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus montant à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau après qu'il avait été agité était guéri, quelle que soit sa maladie. Au verset 5, là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, » Je répète ce verset, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri. » Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Verset 17. Cependant, Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. » Moi aussi, je suis à l'œuvre. Ici s'arrêtait notre lecture. Ce passage, j'ai essayé de le grouper en 3 parties. Les 4 premiers versets qui nous montrent une société dont la relation avec son Dieu est en déclin, nous relate aussi la misère du peuple. La deuxième partie qui nous parle d'une rencontre unique en son genre, une rencontre unique dans une vie, ce que j'ai appelé le vrai impact durable dans la vie d'une personne, dans la vie d'un chrétien, de celui qui a rencontré Jésus. La troisième partie, versets 10 à 13, les obstacles dans le cheminement avec le Seigneur, le fardeau de la religion, et puis le verset 17, qui est à part mais qui complète tout. Le Père et le Fils sont à l'œuvre, une situation qui est sous le contrôle pour nous qui croyons. Le premier verset déjà nous montre qui était, comment les fêtes au départ qui étaient les fêtes que Moïse avait ordonnées au peuple juif, nous le trouvons en Lévitique, chapitre 23, verset 2. ces fêtes qui étaient au départ destinées à rencontrer la présence de Dieu et la communion avec l'Éternel, comment ils sont devenus les fêtes juives. On a transformé ces fêtes qui, au départ, étaient destinées à faire rencontrer le peuple à son Créateur, c'est devenu, on les appelle ici, les fêtes juives. Une fête du peuple. Non, c'était la fête d'abord de rencontrer l'Éternel. Ce qui montre effectivement le déclin de l'importance qu'on donnait à ces fêtes-là, à l'image de ce que nous vivons aujourd'hui. Si on demandait ici dehors ce que représente Noël, Noël n'est plus pour beaucoup de gens une célébration joyeuse d'un sauveur qui nous est né. Mais Noël est devenu, du moins pour beaucoup, une fête comme tant d'autres, mais une fête surtout commerciale où le business doit se faire le maximum possible. On doit acheter. Oui, voilà ce qui est devenu Noël, du moins pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Au verset 2, nous y trouvons le premier contraste. On nous parle d'une piscine nommée Bethesda. La signification de ce mot Bethesda signifie maison de miséricorde. Près de la porte des brebis. Et la parole de Dieu nous rappelle encore que la vraie porte des brebis, c'est le Seigneur Jésus lui-même, dans l'évangile de Jean, verset 7. Mais c'est auprès de cette piscine qui était censé être maison de miséricorde, qu'on trouve une multitude de malades. Quel contraste! Des infirmes dans l'impossibilité de se mouvoir, des aveugles incapables de se diriger, des boiteux, à la marche incertaine, des paralysés aux membres secs, sans aucune sensibilité, des hommes et des femmes, sans aucune force, incapables de se sortir eux-mêmes de leur état de dépendance. Leurs propres forces ne peuvent pas les sauver. Oui, c'est ce qu'est. On voit ici les gens qui vivent juste sous les symboles, mais la vraie vie n'y est pas. La vraie porte des brebis, le Seigneur Jésus, n'y est pas. La vraie miséricorde n'y est pas. Au verset 4, on nous montre même combien la situation misérable pousse les hommes à devenir égoïstes. Dans leur pauvreté, ils sont dans une compétition. C'est le premier qui doit sauter lorsque l'eau va s'agiter, qui sera achevé. Tant pis pour ton voisin. Tu dois sauter le premier. Quel égoïsme même dans la misère. C'est la règle que nous connaissons aujourd'hui. Nous sommes là. Oui, chacun pour soi et Dieu pour tous. Le premier qui saute, c'est le premier qui sera guéri. Tant pis pour les autres. C'est l'image de ce que nous sommes dans notre état naturel, les incapables égoïstes. Lorsqu'on n'a pas le Seigneur dans sa vie, on est un incapable égoïste. On ne pense qu'à soi, à se sauver soi-même, dans l'impossibilité même de se sauver, parce qu'on n'a personne pour t'amener à la grâce que le Seigneur donne. On se bat par ses propres moyens. Mais on reste un incapable égoïste. Que le Seigneur nous aide. Mais il y a de l'espoir. Le verset 5 et verset 6, c'est là où nous voyons une rencontre qui change la vie. Oui, nous voyons. Arrive alors la vraie porte des brebis, le Seigneur Jésus. La vraie source de la miséricorde. Notre Seigneur, le Sauveur. Contrairement à la foule qui entourait le paralytique, Jésus va prendre le temps de s'arrêter. il va prendre le temps de s'intéresser à la misère de cet homme qui venait de passer la moitié de sa vie, 38 ans, sous la souffrance. Alors le Seigneur lui adresse une question capitale pour le reste de sa vie. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? La question qui reste est d'actualité pour nous tous. C'est pas n'importe qui pose cette question. C'est Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il pose la question au paralytique, cette question que nous tous, que tout homme sage, intelligent, aimerait que le Seigneur nous pose. Dans mes défauts que je connais, j'aimerais bien que le Seigneur me pose cette question. Veux-tu être guéri? Oui, parce que celui qui pose cette question, c'est le roi des rois. C'est Jésus-Christ en qui Dieu a placé toute sa plénitude. Colossiens, chapitre 2, verset 9. Parce que celui qui pose cette question, c'est Jésus qui a reçu de Dieu tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est pas n'importe qui pose cette question. C'est Jésus lui-même qui nous guérit toutes nos infirmités, confirmait le psalmiste dans son psaume 103, verset 3. Oui, c'est Jésus le Sauveur. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. C'est le Maître lui-même qui pose cette question. Veux-tu être guéri? Il nous la pose, nous aussi. Que ce moment ne nous échappe pas. Je ne connais pas tes souffrances, je ne connais pas ta situation, mais je sais que ni toi ni moi ne sommes jamais parfaits devant Dieu. Nous avons tous besoin du Seigneur pour corriger quelque chose, pour nous guérir quelque part. Tu sais là où tu souffres, et je sais là où je souffre, là où j'aimerais que le Seigneur corrige dans ma vie. Alors saisis cette question pour toi. Oui, c'est la rencontre unique en son genre pour toute une vie, celle qui va laisser un impact indélébile pour toute la vie de celui qui a rencontré le Seigneur Jésus. Jésus pose la question au paralytique, ou même à toute autre personne qui est dans le besoin, qui est intéressée par son appel, non pas parce qu'il ne sait pas, on ne voit pas sa situation, mais tout simplement parce que le Seigneur Jésus veut créer une relation durable avec celui qui lui ouvre son cœur, parce que Christ veut changer son histoire, parce que Christ veut changer ton histoire, parce que Christ veut changer mon histoire. La parole de Dieu est vivante. Au verset 7 et 9, dans son désarroi et désespoir, le paralytique confirme au Seigneur qu'il n'a personne d'autre pour qui il pouvait compter, personne pour l'aider. Mais il est en face de celui qui paie tout. Aussitôt, le Seigneur Jésus leur donna de se lever, de prendre son lit et marcher. Aussitôt, sous l'ordre du Seigneur, cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. Un miracle unique, une rencontre unique. Dès qu'on reconnaît sa misère et qu'on fait appel au Seigneur, il ne te laisse pas indifférent. Non, le Seigneur Jésus t'aime, nous aime tellement qui ne peut pas nous laisser dans notre misère. Mais c'est à nous de faire appel à lui. Oui, c'est à nous de lui exprimer les manquements de nos âmes, de souffrir pour nos péchés, de souffrir de la situation dans laquelle je suis incapable de me sauver et de faire appel à lui. Mais c'est un bon berger. Il est venu pour sauver, pour nous sauver, toi et moi. Il y a toujours un avant et un après la rencontre avec le Seigneur Jésus, c'est ce que nous voyons même chez le paralytique. Une chose est sûre, Jésus te laisse avec un témoignage. L'homme guéri devient maître de la situation. C'est lui désormais qui porte son brancard. On ne lui porte plus sur le brancard. Son brancard devient témoignage à tous ceux qui l'ont connu couché. Son brancard qu'il porte devient témoignage qu'il a rencontré un sauveur, qu'il a rencontré un guérisseur, qu'il a rencontré celui qui peut tout, que désormais il est libre. Pendant 38 ans, il a souffert. Il était sous le joug d'une maladie, même d'un péché. Quelque part, Jésus lui donnera une remarque, on le verra. Mais Jésus, lorsqu'il te touche, il entre dans ta vie, il te laisse un témoignage. Oui, Jésus te laisse un témoignage. Tellement tu peux en devenir fou lorsque les gens te voient, tu racontes ce que le Seigneur a fait pour toi. Ils se demandent, qu'est-ce qui le prend? Qu'est-ce qui se passe? Je n'oublierai jamais l'année 99 dans laquelle j'ai rencontré le Seigneur. Il avait changé ma vie et j'avais découvert la Bible comme la parole de Dieu. Et j'expérimentais de nouvelles choses dans cette richesse. Alors le Seigneur, j'ai eu le temps de prier même pour mon mariage. J'étais en Afrique. Je vous partage ce témoignage. Alors un jour, j'ai eu le temps de prier pour mon mariage. Je connaissais quelques filles qui m'intéressaient, que j'avais vues. Je demande au Seigneur de choisir pour moi, de me guider dans cette liste que je mets devant lui. C'est fou ce que je vous raconte, mais c'est ma foi lorsque j'ai rencontré le Seigneur. Et la nuit, je reçois une vision, je me vois avec Jocelyne qui est devenue quelques années après mon épouse. Je me réveille, je dis, ça y est, c'est elle parmi la liste. Je lui écris une lettre en Afrique, elle était déjà ici en Europe. Je lui dis, prépare-toi, tu seras mon épouse. Elle a coupé le contact, c'est la manière que je l'ai dit, c'était cash. La folie lorsque le Seigneur te donne confirmation. Prépare-toi. Tu seras mon épouse. Il n'y a pas de romantisme maintenant. La folie. Oui, le Seigneur te laisse un témoignage. Elle a coupé contact quelques années. Quelques mois, je suis arrivé en Europe. Après, contact et non encore résolu, mais après, on s'est mariés en 2002. Notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle. Le Seigneur ne fait pas seulement dans tous les coins du domaine, il nous libère même de nos péchés, de nos haines. Je pouvais encore vous donner le témoignage combien je portais mon père dans une haine, parce qu'elle n'avait pas été présente dans ma vie d'enfance. Mais la parole de Dieu m'a convaincu, lorsque j'ai reçu le Seigneur, que je dois lui pardonner. C'était dur. Je ne comprenais pas. Et ma mère en souffre toujours. Mais chaque fois que j'allais prier, le Seigneur me disait, non, non, ça ne vient pas. Tu dois te repentir, tu dois aller lui pardonner, tu dois le chercher en plus. Aujourd'hui que je vous parle, on est en une très bonne relation, on est devenus des copains. Et lui-même, je lui dis, si le Seigneur n'était pas passé par là, ça n'aurait pas été possible. Le Seigneur délivre. Jocelyne m'en parlait, me dit, toi, c'est facile, mais tu ne peux pas comprendre. Mais je n'ai rien à comprendre. Quand tu as le Seigneur qui te délivre, tu n'as pas à comprendre parce qu'il répare. Nous avons un Seigneur magnifique. Je témoigne pour vous faire aimer son maître. Il est bon. Il donne du goût à la vie. Il te laisse un témoignage indélébile. Oui, c'est lui qui fait l'impact, qui fait que même si on te jette partout, tu iras chercher une église parce que tu as rencontré le Seigneur. Je vous souhaite ces sentiments où tu sentes que le Seigneur te connaît, t'aime, sait chaque détail de ta vie. Je vous souhaite de vivre ça. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Il est bon, notre Seigneur. Si on parlait de ses œuvres, le temps deviendrait petit. Troisième partie de notre passage, au verset 10 et 13, nous voyons combien dans notre cheminement avec le Seigneur, il y a des ennemis du bien, le fardeau de la religion. Au verset 10, nous voyons combien l'homme guéri rencontre les Juifs qui commencent à le questionner. Elle posait des questions, à lui mettre des interdits. Tu ne dois pas, il était interdit. Et pourtant, il a passé 38 ans sur un brancard. Il y a eu des sabbats et des sabbats qui n'ont rien changé dans sa vie. Mais on lui casse la tête, juste, on ne veut même pas partager sa joie. On ne veut pas tellement, on est borné dans les règles de la religion qui ne sauve pas, qui ne libère pas. On est même incapable de partager la joie d'un frère. Ce n'est pas un étranger. Non, c'est un de leurs que le Seigneur vient de libérer, mais ils sont incapables de le voir. Que le Seigneur nous aide, un tel amour fraternel pose la question. Au verset 11, l'œuvre du Seigneur, ce que je viens de vous dire dans mon témoignage, ne nous laisse pas indifférents face à ceux qui l'interrogent, pourquoi il porte son brancard. L'homme guéri, il va répondre une réponse que j'aime beaucoup. Celui qui m'a guéri m'a dit, c'est cette folie dont je vous parlais. Lorsque le Seigneur t'a touché, tu as une confiance, tu as une assurance dans ce que tu réponds, que ceux qui sont en face de toi ne peuvent pas comprendre. Celui qui m'a guéri m'a dit, ça veut dire vous les autres, ce que vous dites est, ça passe à côté, ça n'entre pas. Parce que celui qui m'a guéri, sa parole devient autorité sur ma situation. Jésus m'a dit, c'est très important, bien-aimé, se souvenir, quand est-ce que tu as rencontré le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Ou qu'est-ce que toi tu lui as dit lorsque tu l'as rencontré? C'est capital. Sinon, il y a les vents qui vont te faire bouger. Non. Mais lorsque tu as rencontré le Seigneur, tu as cette assurance et confiance Ce qui reste juste, c'est prier de ne pas tomber dans l'excès d'orgueil et que ça devient l'orgueil. Mais quand tu as rencontré le Seigneur, tu as cette assurance que ta vie est sous le contrôle. Il connaît ta situation. Au verset 13, remarquons que le Seigneur Jésus, dans son œuvre salvatrice, il n'est pas dans le spectacle, non. Il sauve, il guérit dans le silence, sans attirer sur lui l'admiration de la foule présente. Et pourtant, il y avait beaucoup de gens qui pouvaient admirer et dire « Wow !» Non, il guérit, il part. Quelle simplicité de notre Seigneur. Ce qui l'intéresse, c'est nos âmes. Nos âmes. Ce n'est pas l'approbation des hommes que le Seigneur cherche. Son royaume n'est pas celui du monde, n'est pas de ce monde. Il va le déclarer dans l'évangile de Jean, chapitre 18, verset 36. Il est dans la simplicité. Il veut juste prendre soin de ses enfants, de ses brebis. Au verset 14, il y a un message rassurant que le Seigneur ne nous perde pas de vue. Bien que l'homme guéri ne sache pas identifier son guérisseur, Jésus, le bon berger, cherche sa brebis et la retrouve dans le temple. Et l'avertissement que le Seigneur adresse à l'homme guéri, « Te voilà guéri, ne pêche plus ». De peur qu'il ne t'arrive quelque chose, prouve bien que le Seigneur connaissait la situation même spirituelle de cet homme. Jésus nous connaît partout. Les apparences que nous pouvons donner, non, il sait tout au fond de nous-mêmes. Il connaît nos cœurs. L'homme est guéri, mais Jésus sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas réparé au fond de lui-même, il dit « Prends garde !» Jésus le prévient. Sans une réelle repentance, il risque pire que la paralysie. Il risque de terminer sa vie sous le feu de l'enfer. Jésus veut que l'homme guéri, à la fin du temps, il rentre au ciel. Répands-toi. Répands-toi de ton péché. Et la parole de Dieu nous rappelle que Dieu est bon et juste pour nous les pardonner lorsque nous confessons nos péchés. Il faut une réelle repentance. Versets 15 et 16 nous montrent encore notre homme guéri qui cherche encore les faveurs des Juifs. Il espérait obtenir les faveurs des Juifs religieux. Il va renoncer et va leur annoncer que c'est Jésus qui l'a guéri. On peut se demander ce comportement chez cet homme, une sorte d'ingratitude envers le Seigneur. Que le Seigneur nous épargne ce comportement d'oublier ce que le Seigneur a fait pour nous. Soyons reconnaissants lorsque le Seigneur a fait quelque chose dans nos vies. Et ça aussi nous montre probablement que cet homme était encore marqué par les traits de sa religion. Il veut les faveurs de l'entourage, de l'autorité religieuse à côté. Oui, Jésus dérange, parce que cette nouvelle sera bien accueillie chez les Juifs qui veulent le condamner. Il veut faire mourir Jésus, parce que son œuvre qui accorde la liberté aux opprimés le jour du sabbat dérange. L'œuvre du Seigneur confond les Juifs et leurs règles de la loi dans leur incapacité de sauver, et ça dérange. Parce que Christ fait le contraire, il rend les gens libres et les laisse profiter du sabbat, ce que les Juifs ne pouvaient pas faire. Et cela confirme la parole Oui, de Dieu. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Oui, la grâce et la vérité sont venues de Jésus. C'est lui seul qui sauve, même si ça dérange. Mais c'est la vérité. Arrive alors au verset 17, que j'ai considéré comme un chant de victoire pour nous. Le verset 17, « Cependant, Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre. » Waouh. C'est une garantie pour nous que le Seigneur est sous le contrôle. Dieu ne se repose jamais, déclare la parole de Dieu en Ésaïe chapitre 40, verset 28. Il ne se lasse pas, ne se fatigue pas, il est toujours en activité, c'est lui qui protège le monde. Et voir que le Seigneur agit comme le Père, lui aussi il ne s'arrête pas, ne se fatigue pas, il veille sur nous. Quelle assurance pour nous de savoir que celui à qui on a déposé notre vie, il veille jour et nuit, il ne se fatigue pas. Le Seigneur est au contrôle de ta vie si tu lui as confié ta vie. Il est au contrôle de ma vie. Il ne se fatigue ni ne se lasse, notre Seigneur. Oui, ce verset sonne comme un chant de victoire à toute personne qui croit et à tous ceux qui espèrent en Christ ressuscité. Son œuvre jusqu'à la croix, il a donné sa vie, il n'est pas resté seulement là-bas, on l'a entendu lors de la Sainte Cène, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Oui, notre Seigneur est vivant. Il sauve toujours, même aujourd'hui. Il est toujours à l'œuvre, le Seigneur. Et il dira, dans le même chapitre, verset 21, en effet, « Tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. » Il confirme. Quelle merveilleuse nouvelle pour nous. Jésus est Dieu et il est toujours à l'œuvre pour nous. Il prend soin de toi, il prend soin de moi. Et il est prêt aussi à prendre soin à quiconque lui fait confiance. Son amour est immense pour nous accueillir tous, toute l'humanité. C'est son objectif qui l'a amené au monde. Il est venu pour que tous soient sauvés, sans exception. Et en Apocalypse, chapitre 3, verset 20, c'est un rappel que celui dont nous venons de parler, ce Seigneur, ce Sauveur, toujours à l'œuvre, qui te cherche si tu ne l'as pas encore accepté, il a une invitation qui dure jusqu'à ce qu'il revienne. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Une invitation à nous tous, à toi et moi. Si tu as reçu ce Seigneur comme ton Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu as goûté à cette rencontre dont on a parlé, alors ton cœur est dans la joie d'entendre encore ce message. Quelques points de mise en pratique. J'ai repris la question dont on s'est posé au départ. Alors, comment acquérir, se faire ou se construire une vie chrétienne impactée durablement? Vous l'avez compris, il faut d'abord s'assurer que tu as donné ta vie au Seigneur, être capable de répondre aux questions. Quand est-ce que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur? C'est une date qui doit toujours être fixée dans ta tête, parce que cette date-là, on ne l'oublie jamais. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Qu'est-ce que tu as dit au Seigneur le jour où tu l'as rencontré? Si tu lui as rien dit, il est encore prêt à t'écouter. Il faut que tu quittes la formule générale. Il y a ce que j'appelle comme une formule mathématique. Qui est Jésus pour toi? C'est mon Seigneur et mon Sauveur. Il a donné sa vie pour moi. C'est une vérité, oui. Mais cette vérité dans ta vie, est-ce que tu l'as comment? Tu la vis comment? Ça, c'est une autre question. Il ne faut pas que nous soyons dans le courant de dire « Oui, j'ai entendu la bonne nouvelle ». Comment tu vis la bonne nouvelle? Comment tu t'appropries cette bonne nouvelle dans ta vie? C'est ce que Paul nous disait. L'appel du Seigneur nous répond à lui répondre, à être à son service, à répondre à son appel comme disciple. Le deuxième point, c'est être en communion permanente avec le Seigneur Jésus. Ça se fait par la prière. Oui, ça se fait par la prière. Jésus lui-même dit, mes brebis écoutent ma voix et je les connais, elles me suivent. Dans l'évangile de Jean chapitre 10, verset 27. Tu ne peux pas écouter le maître si tu ne pries pas, si tu ne prends pas le temps de lire sa parole et de lui parler. Il ne va pas t'entendre si tu ne prends pas le temps de lui parler. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, elles me suivent. C'est à travers sa parole et les moments d'intimité, de prière, que le Seigneur t'adresse un message, te parle et que tu saisis et que tu vis cette communion avec lui. Un troisième point que j'ai ajouté, c'est avoir un témoignage pour Christ. Mon témoignage revient, ceux qui étaient à la convention savent que c'était le thème de notre convention, de nos églises. Actes chapitre 1, verset 18, il faut un témoignage. Dieu nous a envoyé, le Seigneur Jésus nous a envoyé pour être les témoins. C'est pour cela qu'il faut demander un témoignage. Notre vie doit témoigner que Christ a changé quelque chose. Et nous devons y veiller. Ça ne veut pas dire que nous sommes devenus les hommes parfaits, les femmes parfaites, mais nous savons que nous appartenons au Seigneur et nous lui demandons de façonner nos vies, de corriger nos erreurs, de nous rendre vraiment ce parfum de bonne odeur pour lui. Il faut demander un témoignage au Seigneur. Et Pierre le dit dans 1 Pierre chapitre 3, versets 15 à 16. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Faites-le avec douceur et respect en gardant une bonne conscience afin que là même où il vous calomnie comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. Il faut un témoignage qui parle. Il faut demander au Seigneur de me changer pour que parmi vous, je sois un témoignage pour lui. Il faut que tu lui demandes de te donner quelque chose à dire aux païens, à ceux qui ne le connaissent pas encore. Un chrétien sans témoignage, il vit une vie pauvre, alors que nous appartenons à un Seigneur riche en témoignages. Je ne parlais pas des choses matérielles, entendons-nous bien, non, je parle de ce que Christ a fait dans ta vie, une délivrance quelconque, un changement dans ta vie, ce que tu vis avec lui. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Nous allons prier. Nous avons entendu la parole de Dieu. La durabilité, c'est le Seigneur Jésus. C'est en lui qu'on la trouve. Le vrai impact dans la vie, c'est rencontrer le Seigneur Jésus. Si vous avez rencontré le Seigneur Jésus, si vous lui avez confié votre vie, alors soyez dans la joie, remerciez-le. Mais si vous êtes dans l'assemblée et que vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, si vous n'avez pas un repère où vous pouvez dire « ce jour-là, je lui ai confié ma vie, il est devenu mon Seigneur, mon Sauveur », il a fait quelque chose dans ma vie, je le sens, je le crois. Alors saisissez ce moment. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin d'une prière, qu'on prie? Quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur? S'il y a une personne, prenez courage. Levez la main, on va juste prier le Seigneur pour que vous puissiez entrer dans sa bergerie et qu'il devienne votre Seigneur, votre Sauveur, et que vous puissiez goûter à la paix et la joie qu'il donne. Merci Seigneur. Y a-t-il une personne qui sent envie de renouveler sa relation avec le Seigneur? Veux-tu être guéri? Peut-être que tu as un point dont tu as besoin d'une prière, où tu te dis, j'ai besoin d'une prière dans ce domaine. Je vais qu'on prie pour que le Seigneur puisse me guérir, me toucher, me libérer. Saisissez l'occasion. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On va prier. Prions. Dieu de gloire, nous voulons élever ton saint nom. Nous voulons te dire que tu es le plus grand, celui qui a changé nos vies. Nous voulons te dire merci pour toute personne ici présente, pour qui tu es maître et seigneur et sauveur. Nous voulons te dire merci puisque tu es toujours à l'œuvre dans nos vies et que tu sauves toujours. Père de gloire, tu vois tes enfants qui ont levé la main, qui ont besoin d'une prière pour que tu puisses réparer, agir, délivrer. Tu sais dans quel domaine ils sont, ils ont besoin de toi. Mais ils ont levé leurs mains parce qu'ils sentent besoin de toi. Seigneur, dans ta miséricorde et ta bonté, dans ta puissance, Seigneur, veille toucher, veille réparer. Nous implorons ta grâce et ta bonté sur eux pour que toi seul tu puisses être désormais le maître. Dans ces points où ils se sentent faibles, pour que tu puisses être le maître, Seigneur, tu puisses régner dans tous les coins de leur vie. Que toute la gloire te revienne, toi qui nous as aimés, que toute la gloire te revienne, toi qui ne changes pas, que toute la gloire te revienne, toi qui restaures nos âmes. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen.